Toulouse FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Les 16 et 17 octobre 2024, c'est le Forum des métiers organisé par Grenoble Alpes Métropole à Alpexpo Grenoble. Et nous revoici donc en direct depuis Alpexpo, où se déroule depuis 13h, ouverture des portes de ce Forum des métiers édition 2024 organisé par Grenoble Alpes Métropole. L'entrée est libre, on le répétera jamais assez, donc n'hésitez pas, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié déjà avec un emploi, mais avec des envies de changement, de reconversion, ou que soyez étudiant en recherche de stage, d'alternance, voilà, tout est ici, toutes les infos sont au Forum des métiers à l'Alpexpo, donc n'hésitez pas à passer. Et puis on vous l'a dit donc en ouverture, ces deux journées spéciales sur News FM vont être ponctuées de prises d'antenne avec des tables rondes et des interviews. Et bah, c'est la première table ronde que nous allons entamer sans attendre. On va parler d'emploi territorial avec quatre invités. Nous avons tout d'abord... alors je mets dans l'ordre des invités qui sont autour de la table, c'est Nathalie Vacher qui est juste à ma gauche. Bonjour Nathalie.
Bonjour Christophe.
Et bienvenue. Merci. Vous êtes chef du service recrutement, mobilité et compétences à la direction des ressources humaines pour le département de l'Isère.
Tout à fait.
À vos côtés, Marie-Jeanne Clément, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors Marie-Jeanne, vous représentez la ville de Saint-Égrève et je reprends ce que j'ai noté. Voilà, bah, vous êtes la directrice des ressources humaines.
Hein. Tout à fait.
C'est bien ça. Il manquait sur la deuxième fiche que je m'étais faite. à vos côtés, nous avons Béatrice Alaf et Douin. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Et bienvenue à vous également.
Merci beaucoup.
Vous êtes directrice adjointe ressources humaines pour le CCAS de Grenoble, le Centre communal d'action sociale.
Exactement.
Et enfin, notre dernier invité, il s'agit de Sylvain Chanzy. Bonjour.
Bonjour Christophe. Bonjour à tous.
Sylvain Chanzy, directeur général adjoint du pôle ressources, hein, pour Grenoble-Alpes Métropole.
Tout à fait.
Voilà, donc merci tous les quatre d'être avec nous pour commencer cette grande série de tables rondes qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain sur l'antenne de News FM. On va parler effectivement de l'emploi territorial, un peu plus peut-être de l'attractivité que ce secteur de métier peut avoir. D'abord, on voit qu'on a plusieurs échelons territoriaux qui sont représentés autour de la table. Hein. Il y a le niveau communal, le niveau départemental, le niveau métropolitain. Alors, est-ce que déjà, il y a des distinctions à faire au niveau des emplois ? Est-ce qu'il y a certains emplois qui existent au niveau des communes et pas au niveau de la métropole, par exemple ?
Oui, tout à fait. Il y a des métiers similaires, hein, qu'on va trouver aussi bien dans une commune, à la métropole, au département, au CCAS de Grenoble. Mais il y a aussi des métiers spécifiques que l'on va retrouver uniquement dans des communes. Par exemple, des métiers d'adjoint d'animation périscolaire dans les écoles, ou des policiers municipaux. On va trouver ça uniquement dans nos communes. Après, il y a des métiers qu'on retrouvera partout ailleurs, des assistants administratifs, des polyvalents du bâtiment, des éducateurs sportifs qu'on retrouvera pas forcément partout. Mmh. On en trouve dans des communes, on peut en trouver ailleurs, mais pas aujourd'hui, pas au département ni à la métropole. Des enseignants de musique, par exemple, on en trouve dans nos communes, on en trouve dans certaines communautés de communes aussi. Donc il y a vraiment une variété de métiers avec des métiers qu'on va retrouver dans toute collectivité et quelle que soit la strate, et d'autres métiers qui vont être spécifiques aux compétences de chacune des collectivités présentes ici.
Voilà, c'est ce que je voulais compléter, c'est-à-dire que les métiers diffèrent en fonction des compétences qui leur sont déléguées.
Et est-ce qu'il y a davantage de métiers, on va dire, de terrain ? Alors, excusez-moi, je ne suis pas trop habitué, hein, au terme des différentes filières professionnelles. Donc, il ne faut pas hésiter à me reprendre quand je dis un peu des bêtises. On aurait tendance à penser qu'il y a davantage d'agents de terrain, par exemple, au niveau communal. On sait qu'avec la métro, il y a beaucoup de compétences aussi qui relèvent de la métro et qui, par exemple, ramassage des ordures, ce genre de choses. Donc, il y a aussi des agents de terrain. Au département, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui... Après, l'administration, les emplois territoriaux, on pense souvent au bureau, au service.
Oui. Non, on a aussi beaucoup de métiers de terrain. On a une cohorte d'agents d'exploitation des routes qui entretiennent les routes départementales et notamment pendant la période hivernale. Ouais. On a une grosse cohorte aussi d'agents qui sont à peu près 700 au département, qui sont agents polyvalents en restauration et en entretien des collèges, qui permettent aux collégiens de manger, d'avoir des locaux propres. Et puis, on peut aussi qualifier, par exemple, tous les métiers qui concernent les espaces naturels sensibles, où on peut appeler des agents de terrain, dans le sens où ils sont animateurs, ils sont guides, donc ils sont sur le terrain. Et puis, enfin, on pourrait dire aussi tous les bâtiments délocalisés, les musées, tous les personnels qui sont en contact, en fait, avec la population sont des agents de terrain.
Est-ce que tous les emplois donc, qui relèvent de vos structures, aux uns aux autres, sont tous avec des statuts de fonction publique où il y a des personnes qui ont des contrats particuliers, des gens qui sont en mission?
Au niveau de la métropole, on a vraiment un double statut puisqu'on a un certain nombre de compétences, notamment les métiers de l'eau, qui sont exercés en régie de droit privé. Alors je ne vais pas développer ce terme qui doit paraître barbare à beaucoup des auditeurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a d'une part des fonctionnaires, des contractuels dans toute la fonction publique et sur l'ensemble des compétences, et d'ailleurs une part de plus en plus importante de contractuels. Et par ailleurs, on a des secteurs où on est obligé de recruter des métiers contractuels. C'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'assainissement, où les contrats sont des contrats de droit privé similaires à ce qu'on peut trouver dans le secteur privé, soumis au code du travail et pas au code de la fonction publique.
On peut peut-être compléter. En fait, la loi de transformation de 2019 a permis l'extension et le recours aux contractuels, même si le statut de la fonction publique reste prioritaire. Mais justement, par rapport au sujet de l'attractivité, nous avons besoin de compétences. Pour nous, ça va être au niveau des conducteurs d'opérations ou bâtiments ou sur les ouvrages d'art des routes, où effectivement on n'arrive pas à recruter des titulaires. Donc bien sûr qu'on fait appel aussi aux contractuels.
Et cette difficulté de recrutement, ça s'explique par quoi ?
Alors ça s'explique par les formations choisies sur les parcours scolaires. Ça s'explique aussi parce que, par exemple, sur les routes, on est en concurrence avec des entreprises du secteur privé qui ont des niveaux de rémunération sur lesquels on ne peut pas s'aligner, notamment. Voilà. Bien que l'attractivité, ce n'est pas que la rémunération, mais on en parlera peut-être plus tard.
On peut même en parler tout de suite, pourquoi pas. Donc effectivement,
Alors moi, je voulais rebondir aussi sur les contrats, parce que souvent, on a en tête, en effet, les fonctionnaires et les contractuels. Mais pour être fonctionnaire, on pense souvent au concours. Il y a quand même un nombre assez important de métiers qui sont accessibles sans concours et où les gens vont pouvoir devenir fonctionnaires sans avoir passé un concours.
Par exemple,
Des jardiniers ou des agents d'exploitation des routes.
Les agents de la catégorie C.
Des métiers de catégorie C, des assistants administratifs, etc.
Je suis passé une fois par la mairie des Bains dans le service du personnel, donc je me souviens des catégories.
Et donc vos souvenirs de catégories sont lesquels ?
Je sais qu'il y a plusieurs catégories, A, B, C. Donc il y a les cadres territoriaux. C'est les différents niveaux de qualification, de rémunération. Donc effectivement, c'est important de le préciser. J'allais poser la question plus tard si la question des concours, il faut systématiquement passer un concours, parce qu'à l'époque, c'était il y a très longtemps, quand j'étais passé par ce service du personnel pour un petit emploi ponctuel, à l'époque, on avait cette vision, on pouvait mettre un pied dans une collectivité, mais après, pour y rester, il fallait qu'on passe un concours. Donc ce n'est pas systématiquement le cas, ça dépend des métiers.
C'est ça. Et puis l'ouverture au contractuel.
Exactement, ça dépend des métiers, effectivement, et de l'ouverture au contractuel. Et comme disaient les personnes ici présentes, en fonction de nos métiers, donc là, moi, je vais plutôt parler du CCAS, puisqu'on porte et on anime une politique sociale et la politique sociale de la ville. Nos métiers et nos agents, principalement, vont travailler pardon, vont travailler sur donc tout ce qui est donc direction lutte contre la pauvreté et la précarité, tout ce qui va être la petite enfance et les personnes âgées. Donc du coup, nos métiers, ça va être des métiers du social, des métiers de soignants, des métiers effectivement liés à la petite enfance avec une dimension sociale forte. Et tout à l'heure, on parlait d'attirer le public et on parlait effectivement de pourquoi il venait pas. En fait, on a différentes difficultés. Déjà, même si aujourd'hui on a une société avec une précarité, on est quand même sur un quasi plein emploi, c'est-à-dire qu'on a 6% de taux de chômage. Là-dessus, les demandes là où on recrute le plus, c'est effectivement sur les métiers du social et de la santé. Vous rajoutez que les écoles n'arrivent pas à former la plupart des professionnels dont on a besoin. Ça veut dire qu'il faut qu'on repense complètement les choses. Donc du coup, ça va nous demander, nous, une approche complètement différente. Déjà, d'une, les attirer. Le forum d'aujourd'hui en fait partie. Informer, sensibiliser. Mais après, effectivement, c'est comment on ouvre les différentes possibilités. C'est-à-dire qu'au CCS, vous avez des personnes qui vont pouvoir faire des immersions par des stages ou des services civiques ou des parcours emploi compétences. Et on va les accompagner et les former. Il y a des personnes qui vont rentrer par l'apprentissage. Mmh. On a des personnes, tout à l'heure, on parlait qui rentrent catégorie C. On peut avoir des personnes qui vont rentrer comme agents spécialisés petite enfance. Ils ont un CAP AEPE, accompagnement éducatif. Et au bout de quelques années, on va les accompagner pour une VAE, pour qu'ils puissent aller sur un diplôme d'auxiliaire de périculture. Donc c'est comment le système se met en route pour, à un moment donné, donner de la lisibilité, attirer et du coup fidéliser en interne.
Et peut-être, ouais, pour compléter, on a, je pense, parlé depuis le début de ce live de tout ce qui fait que parfois on a des problèmes d'attractivité, c'est-à-dire qu'on parle un langage de fonction publique qui n'est pas compréhensible forcément par l'ensemble des citoyens et surtout par les jeunes qu'on cherche à attirer dans ce type de forum. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans la fonction publique, on a de la place pour tout le monde. On a des métiers qui rendent service au quotidien à nos citoyens. Et même si le concours, et je reconnais que ça peut être parfois un élément bloquant, puisque si ça ne vous bloque pas pour rentrer dans la fonction publique ou pour certains métiers, ça peut amener à aussi rendre un peu plus difficile votre évolution de carrière. Néanmoins, la fonction publique est là aussi pour vous accompagner dans les démarches concours. On a un statut qui permet de plus en plus de souplesse. Et en fait, ce n'est pas tellement la catégorie qui est importante, c'est concrètement quelles sont les compétences du territoire sur lequel on a envie de se reposer. Et comment on arrive aussi à démontrer à cette jeune génération qui est en recherche de plus en plus d'éthique, d'équilibre vie pro, vie perso, de sens, et qui va partir peut-être plutôt vers le monde de la start-up ou parfois même vers le monde du secteur privé, que en fait, la fonction publique peut répondre à leurs aspirations. Et donc ça, je pense que c'est aussi un enjeu important qu'on a collectivement, c'est de déconstruire cette image de la fonction publique un peu inaccessible et peu comprise par l'opinion publique pour vraiment montrer qu'en fait, vous pouvez faire des métiers concrets au quotidien. Ramasser les poubelles, c'est concret. Produire de l'eau potable, agir sur la distribution d'eau potable, agir pour réparer des nids de poules sur les voiries, qu'elles soient départementales, métropolitaines. Il n'y a pas plus concret pour les citoyens du territoire.
Oui.
Ce que l'on voit pour la fonction publique territoriale, c'est qu'il y a quand même 250 métiers différents dans la fonction publique. On sait aussi que les jeunes ont une méconnaissance des métiers qui existent dans la fonction publique territoriale, parce que souvent, quand on parle d'orientation scolaire, on ne parle pas forcément fonction publique territoriale, puisqu'il y a des métiers qu'on va retrouver aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique. Et on se rend bien compte que quand on arrive à attirer des jeunes, ou moins jeunes hein, d'ailleurs, dans la fonction publique, souvent, c'est le regard d'étonnement qu'il va y avoir en se disant « Ah, mais vous faites ça à la mairie, ou au CCS, ou au département ?» Parce que les gens ne le savent pas, en fait. Et ont aussi parfois une idée un peu poussiéreuse de la fonction publique et ils ne savent pas faire la différence entre la fonction publique d'État, hospitalière, territoriale. Il y a des distinctions, notamment en termes de métier et d'intégration.
Moi, je veux bien poursuivre sur la question du sens parce que, alors, déjà, l'attractivité, effectivement, c'est pas que mettre une vitrine très jolie avec plein de guirlandes et des lumières. Et s'ils poussent la porte de l'établissement, si c'est sombre et poussiéreux, on va pas les garder. Donc, c'est aussi fidéliser. Et pour les nouvelles générations, quand on parlait de contrat, moi, je me rappelle de la première fois où un jeune recruté, je m'excusais, en fait, de ne pas pouvoir lui proposer un CDI. Et donc, la personne m'a répondu, c'est pas un problème pour moi parce que c'est pas, ça ne m'attire plus, enfin, ça ne m'attire pas d'avoir un CDI. Donc, effectivement, le sens du service au public, de l'intérêt collectif, ça, c'est notre force. Et après, il faut qu'on puisse aussi leur faire prendre conscience effectivement de cette image qui n'est plus poussiéreuse, et que nous, les retours d'expérience qu'on a des gens qui viennent du privé au département, c'est de se dire « Waouh, mais en fait, vous innovez, vous expérimentez, vous travaillez en intelligence collective, et ça, ça donne du sens aussi en dehors de la compétence que vous exercez. C'est dans la culture, alors je vais dire entreprise, nous ne sommes pas des entreprises, mais malgré tout, dans cette culture d'entreprise, on a besoin de se retrouver, parce que le travail, alors je rappelle, le travail, les linguistes se débattent un peu, c'est soit tripalium, c'est-à-dire torture, soit trans, c'est-à-dire je fais un voyage avec des obstacles. Donc il faut aussi, de manière un peu plus macro, leur donner envie et quel est leur rapport au travail, en fait, et que quand on recrute, on recrute une écologie, c'est-à-dire on recrute un candidat, mais avec son écologie de vie. Et pour terminer, l'écologie, la notion et le sujet des transitions est aussi très importante dans nos collectivités, et je pense que pour attirer, il faut aussi qu'on puisse démontrer qu'on prend en compte toutes ces transitions dans l'exercice de nos compétences.
Absolument, et je pense que ça suppose aussi d'avoir un peu d'introspection sur les méthodes de recrutement et sur la manière dont la fonction publique se vend, en fait. On n'a pas à rougir, finalement, d'un certain nombre d'atouts de la fonction publique. Il faut oser avoir une vraie démarche d'attractivité, une vraie démarche de marque employeur. Nous, on l'a lancé au niveau de la métropole, et ce qu'on constate, et ce qui remonte de nos collaborateurs, c'est que on a mis en place de la flexibilité en termes de cycle de travail. On a le choix entre 11 cycles de travail quand on est embauché à la métropole. Et ben en fait, c'est un plus. Et beaucoup d'agents nous disent, mais en fait, moi, c'est super parce que un cycle de 39 heures sur 4 jours et demi qui me permet un vendredi sur deux d'avoir mon vendredi, bah, c'est génial parce que c'est ce que je recherchais en termes d'équilibre vie pro-vie perso. On n'a pas à rougir non plus, effectivement, de cette question de sens autour des transitions. On est très impliqué autour des sujets de transition écologique, que ce soit en termes de politique publique, mais aussi en termes de valeur d'entreprise. On déploie un plan d'administration exemplaire, et c'est des choses qu'on vend aussi à nos candidats. Le troisième point, c'est que je pense qu'il faut aussi essayer d'avoir une stratégie d'attractivité qui est en phase avec les besoins du territoire. Aujourd'hui, le territoire grenoblois, il a sa spécificité. C'est un territoire de montagne, c'est un territoire de sportifs, c'est un territoire aussi d'une certaine façon de lutte historique aussi et d'engagement fort du citoyen. Et donc tous ces sujets-là, bah, il faut les incarner à la fois en termes d'action pour qu'on puisse attirer les populations qui sont en recherche de ça. Et ça peut d'ailleurs modifier des tendances. Hein. À la métropole, on avait il y a 3-4 ans un métier en tension assez fort avec des vraies difficultés de recrutement qui était le métier de chargé d'opérations immobilières. Et de façon assez surprenante, en fait, la politique de la métropole en termes bâtimentaires, d'essayer de faire du bâtiment exemplaire, de faire de la rénovation, beaucoup plus de la construction neuve, nous a permis d'attirer tout un tas de jeunes, plutôt profil école d'ingénieur, bac plus 5, après une expérience dans les grands groupes du BTP qui, en fait, cherchaient autre chose, voulaient un peu remettre en cause leur pratique. Et aujourd'hui, par exemple, sur ce poste, on a su leur vendre quelque chose qui leur plaît, même si certains ont perdu en rémunération, hein, mais qui est plus en phase avec leurs valeurs. Donc c'est un bel exemple aussi du fait que quand on ne rougit pas et qu'on assume nos atouts et qu'on les vend, en fait, on est tout à fait capable d'être attractif, y compris vis-à-vis du secteur privé.
Donc, nécessité de mettre en avant, de valoriser les aspects modernes de la fonction publique, de montrer que ça a évolué, que c'est en phase avec la société, avec les aspirations peut-être des jeunes, hein, pour aussi que ça renouvelle un peu les emplois. Le vieux cliché de la sécurité de l'emploi quand on rejoint la fonction publique, c'était souvent... la première cause d'attractivité. On se disait, je vais bosser pour une commune, je vais être à la fonction publique, je suis tranquille. Ça existe encore, il y a des candidats qui viennent et qui disent, est-ce que cette sécurité, elle est toujours là?
Alors, ce n'est pas la première porte d'entrée aujourd'hui, ouais. Quelqu'un candidate dans la fonction publique territoriale. Alors, ça fait toujours rêver certains, mais c'est en effet pas la porte d'entrée. Et ça peut même être un frein, notamment chez les jeunes qui se disent « Si je rentre dans la fonction publique, je vais être coincé, ouais, et je ne vais plus en bouger ». Or, le gros intérêt de la fonction publique, c'est que vous avez une carrière qui se déroule, notamment quand on est fonctionnaire, et vous pouvez bouger d'une collectivité à l'autre sans avoir à renégocier votre salaire de base parce qu'on suit des grilles. Mmh. Et on peut passer d'une commune à un CCS, un département, une métropole, une communauté de communes, avec des missions différentes, voire des fonctions différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des parcours professionnels et des parcours de carrière qui sont très variés. Pour vous donner un exemple concret, à Saint-Égrève, on a un agent qui a commencé chez nous sur un emploi jeune, hein, ça n'existe plus aujourd'hui, mais un contrat aidé, qui ensuite est rentré à la bibliothèque et qui était agent de bibliothèque. Et il y a quelques années, il est passé agent d'accueil au service accueil relations usagers. Et aujourd'hui, il est gestionnaire des assurances sur un poste de catégorie B. Donc ça, c'est des parcours qui sont assez variés. On a une personne en apprenti espace vert qui a été recrutée chez nous en tant qu'agent des espaces verts et qui aujourd'hui est sur un poste de policière municipale. Alors tout le monde n'a pas des parcours aussi différents parce qu'il faut la motivation, il faut la volonté, il faut l'accompagnement de l'employeur, mais il y a des perspectives que l'on a dans la territoriale et que l'on n'imagine même pas lorsqu'on n'a pas cette connaissance-là de la fonction publique territoriale.
Et je rajoute, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute cette dimension-là de parcours. Et tout à l'heure, vous disiez que les jeunes, aujourd'hui, finalement, ils ont pas forcément envie de rester, en fait, ce sentiment de à vie. Donc effectivement, il y a ces parcours. Il y a le CDD, et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi de transformation de 2019 a permis effectivement de pouvoir recruter plus en CDD, de 1 à 3 ans. Nous, on a des jeunes qui nous disent « Ah non, je viens pour tester ». Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est 3 ans plus 3 ans, ensuite, effectivement, vous avez l'ouverture sur le CDI. Donc, quelque part, la fonction publique est en train d'avoir une flexibilité qu'elle n'avait pas avant, et finalement, elle permet différents types de parcours. Et du coup, quelque part, chacun peut s'y retrouver à travers ces différents parcours.
Je reviens sur ce que vous disiez, Marie-Jeanne, sur des personnes qui entrent dans un poste et ensuite ont des perspectives d'évolution. On a une autre image, et là, c'est peut-être toujours un peu cliché, je suis très cliché.
Ouais, moi. Vous êtes très cliché, Christophe, je voulais vous le dire, mais...
Alors, on me l'a toujours dit, donc moi-même, je suis un cliché. Non, il y a une autre image qu'on a de la fonction publique, c'est la promotion interne. De se dire, voilà, les postes vont être occupés par des personnes, sont d'abord proposés à des personnes en interne. Du coup, on ne va pas pouvoir postuler sur des postes intéressants. Est-ce que là aussi, vous pouvez me détruire ce cliché ?
Complètement. On a quelque chose d'un peu barbare qui s'appelle le RIFCEP, qui en fait est quelque chose d'assez simple. C'est que dans l'esprit, l'idée, c'est qu'on décorrèle d'un côté le statut, c'est-à-dire vous êtes catégorie A, catégorie B, catégorie C avec un grade, de la réalité du poste que vous exercez sur laquelle une part de votre rémunération est en fait liée. Et donc, aujourd'hui, non seulement les avancements de grade promotion interne, c'est plus que c'était. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans une logique aussi de récompense de la valeur professionnelle de l'agent, de son engagement, et pas forcément juste de l'ancienneté et du copinage, comme certains aimeraient le dire aussi, puisqu'on est dans le cliché. Et par ailleurs, en fait, quand bien même, d'un point de vue statutaire, vous ne seriez pas catégorie B ou catégorie A, ça n'empêche pas aujourd'hui, dans la fonction publique, et on le voit de plus en plus, et ça permet aussi de donner des opportunités de parcours à beaucoup, notamment aux jeunes, c'est que ça ne vous empêche pas d'accéder à des fonctions qui sont sur un grade supérieur et qui vont permettre ensuite de faciliter l'accès aussi au grade d'au-dessus. Donc moi, ce que je pense qu'il faut dire aux jeunes, c'est que dans la fonction publique territoriale, on a certes parfois dans certaines organisations des logiques pyramidales, mais aussi un enjeu d'opérationnalité extrêmement fort, qui fait que, en fait, quand on a des gens qui sont motivés, qui sont engagés, qui sont performants et qui ont aussi une volonté d'évoluer, de prendre des responsabilités, ben, en fait, la plupart du temps, ça se fait, en fait. Et quel que soit l'âge et quel que soit aussi le profil, le parcours, ce qu'on ne retrouve pas, je pense, dans d'autres types d'organisations très pyramidales, beaucoup plus grosses dans les entreprises privées notamment.
Mmh. Je veux bien compléter. Ça va,
ben, je crois que vous voulez toutes les trois compléter, donc allez-y.
Donc j'ouvre le bal. Je pense que cette agilité, elle est effectivement nécessaire. Les campagnes d'avancement de grade et de promotion interne existent toujours. Mais là où on dépoussière, c'est aussi que, enfin ma lecture, c'est qu'on outille aussi les managers d'aujourd'hui, qui ne sont plus les managers de demain, à développer leur courage managérial et être très proactif justement sur la valorisation de la compétence. Et il est tout à fait possible de pouvoir promouvoir quelqu'un qui est arrivé il y a un an, contrairement à si dans l'équipe, il y a quelqu'un qui était là depuis 8 ans, parce que on développe ces compétences chez les managers, de pouvoir assumer que la collectivité, le service au public, a besoin de compétences et pas juste d'ancienneté sur un poste.
Moi, je voulais rebondir parce que du coup, c'était la question, effectivement, est-ce qu'il y a de la promotion interne par rapport au poste ? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nos postes, à partir du moment où on a un poste permanent qui s'ouvre, qui est vacant, en fait, il est diffusé. Donc, obligatoirement, il est diffusé sur emploi territorial, sauf qu'on vous a dit qu'il faut qu'on attire, on ne reste pas que sur emploi territorial. Donc, du coup, on va utiliser multiples réseaux, que ce soit du LinkedIn ou des jobboards, pour attirer le maximum de personnes. Et je rebondis par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est... Effectivement, s'il y a une personne en interne qui a les compétences et qui postule, elle a toutes ses chances. Mais en même temps, s'il y a des personnes qui sont en externe et qui ont des compétences et qui ont de la motivation et qui vont apporter quelque chose de nouveau et qui, du coup, vont amener justement ce renouveau, en fait, ils ont toutes leurs chances aussi. D'accord. Donc, du coup, c'est effectivement comment, à un moment donné, dans nos recrutements, et là, c'est pas que le manager, c'est aussi les politiques de recrutement, comment on est sur de l'agilité, on est sur de l'ouverture sur l'extérieur, comment on travaille avec les acteurs de l'emploi et comment, effectivement, on valorise plutôt les compétences.
Je rebondis, je confirme, ça se passe exactement comme ça à Saint-Égrève aussi. Quand il y a un poste permanent qui s'ouvre, il est publié. Donc, à la fois sur emploi territorial et sur d'autres supports, Indeed, etc., voire sur Pôle emploi, même parfois, tout dépend des postes.
Le bon coin, nous, on ne fait pas encore.
Pour les mécaniciens, on fait le bon coin.
Très bien. Ça veut dire qu'un poste qui est proposé, il n'est pas réservé en interne. Il est ouvert à l'extérieur et les candidats internes peuvent se positionner au même titre que les candidats externes. Et c'est au regard de notre profil de poste, des compétences que l'on recherche en interne dans la collectivité, que nous allons sélectionner le candidat qui sera retenu.
Est-ce que vous avez suffisamment de liberté pour attirer, faire de l'information ou est-ce qu'il y a quand même... Enfin, on aurait tendance à penser que c'est un petit peu verrouillé d'une collectivité à l'autre. Vous devez respecter les mêmes règles qui sont éditées. Est-ce que vous avez quand même assez de liberté au niveau des directions des ressources humaines pour faire un petit peu des campagnes de recrutement?
Oui, ouais. On a des libertés pour utiliser finalement tous les moyens à disposition. C'est-à-dire que on est capable de faire des job dating en interne dans nos structures. On va effectivement mettre en place des jeux pour recruter. On va aller dans les écoles pour recruter les nouveaux diplômés. On va faire de l'aller vers. Voilà. En fait, du coup, j'allais dire qu'aujourd'hui, finalement, on utilise tous les outils et toutes les méthodes possibles. On fait du sourcing. On va carrément contacter des personnes qui sont en ouverture pour effectivement leur parler de nos métiers, de leur parler de notre institution, de leur parler de nos valeurs, du sens. Et en fait, pour qu'à un moment donné, ils se disent pourquoi pas là.
Et j'irais même plus loin. Non seulement on a des libertés, mais on a une forte attente de la part de nos élus locaux pour qu'on soit très dynamique et volontariste dans notre politique de recrutement. Aujourd'hui, les collectivités ont pour la plupart mis des moyens qui n'existaient pas hier ou avant-hier sur notamment le recrutement. On attire de plus en plus aussi de recruteurs qui viennent des cabinets de recrutement du secteur privé et qui sont assez rodés finalement aux méthodes aujourd'hui modernes de recrutement. Et donc on n'est plus sur les jurys d'antan, très classico-classiques. On a des processus de recrutement qui sont quand même de plus en plus dynamiques, de plus en plus diversifiés, qui vont aller chercher au-delà de la question des compétences, également les savoir-être, avec des tests de personnalité, avec des partenariats aussi qu'on fait avec des structures cibles quand on a des problématiques très très spécifiques sur certains métiers. Typiquement à la Métropole, on a créé en 2021 un CAP des métiers de l'eau. On avait du mal à recruter sur les métiers de l'eau et en fait on a fait un partenariat avec l'Institut des métiers techniques de Grenoble pour pouvoir justement former les métiers qu'on n'arrivait pas à recruter. Donc on n'hésite pas à être innovant aussi pour véritablement rendre le service public, c'est ce qui est la priorité en fait, et pour rendre le service public il faut des fonctionnaires. Contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans le débat public où il semblerait que finalement il y ait trop de fonctionnaires, en réalité ce qui est paradoxal, c'est que si vous posez la question à un citoyen, est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires dans votre collectivité, il vous répondra oui. Mais quand vous lui demandez si il veut qu'on ferme une déchetterie ou qu'on ne répare plus les nids de poules, il vous dira jamais oui. Donc voilà, on a aussi un enjeu d'incarnation de ce qu'est la fonction publique. Et on a besoin aussi de mettre en avant nos fonctionnaires et de les recruter de la manière la plus dynamique et pérenne possible.
C'est ce qu'on peut appeler l'expérience candidat, en fait, parce que le dernier recrutement que j'ai fait, donc c'était pour mon équipe, et donc effectivement on modernise déjà l'accueil du candidat. Donc l'accueil du candidat, ça démarre au moment de la candidature. Quel contact on prend, quelles informations on donne. Effectivement, il y a tout un tas de mises en situation autres que l'entretien de 45 minutes. Et donc, c'est une personne qui avait, dans la semaine, fait 5 entretiens de recrutement. C'était pour un poste de chargé de projet. Et donc, elle a choisi le département. Et en fait, quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, mais... Enfin, je l'ai remerciée de nous avoir rejoint. Elle m'a dit, mais non, c'est pas... Enfin, je vous ai pas rejoint, c'est moi vraiment qui vous ai choisi. Parce que l'expérience que j'ai vécue dans l'entretien montre la culture de travail qu'il y a derrière, et c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, après, il faut faire attention à l'intégration, bien sûr, dans les équipes, etc. Et puis, il y a cette notion, en fait, de culture usagée, c'est-à-dire qu'on doit aussi s'intéresser pour les gens qu'on reçoit en jury, qui sont recrutés, qui ne sont pas recrutés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui a pu les attirer, qu'est-ce qui... peut nous permettre d'améliorer nos pratiques en termes de recrutement pour favoriser l'attractivité.
Puisqu'on parle de vos libertés, des libertés que vous avez pour gérer vos recrutements, qu'en est-il de la restriction des budgets ? Est-ce que ça impacte l'emploi territorial, hein, puisque l'État donne moins d'argent et cherche à faire des économies ? Alors, les collectivités ont d'autres ressources, hein, bien évidemment, au niveau local, régional. Mais enfin, malgré tout, il y a des budgets qui peuvent être de plus en plus serrés. Du coup, est-ce que ça vous oblige à être beaucoup plus exigeant sur le recrutement, sur les candidats ?
Alors, je pense qu'on a toujours été exigeant, puisqu'à partir du moment où on gère des budgets et de l'argent public, on est forcément obligé d'être exigeant. Donc, je pense qu'on l'a toujours été. En effet, aujourd'hui, il y a quand même des contraintes budgétaires qui sont de plus en plus importantes, parce que l'État est moins présent aussi, hein, auprès des collectivités. La masse salariale des collectivités, c'est une part importante de nos dépenses de fonctionnement, donc une vigilance importante. Alors oui, on est obligé de faire attention. Des fois, on aimerait bien pouvoir développer plus de services, augmenter en qualité, etc. Mais il faut faire avec nos moyens financiers et le nombre de postes que l'on peut créer ou pas dans nos collectivités. Donc on n'est plus forcément sur des phases de création de postes, sauf quand on n'a pas le choix ou quand on récupère des compétences qui sont censées s'accompagner de recettes. La grosse problématique, c'est justement ces recettes qui ont tendance à être moins dynamiques que les dépenses.
Les restrictions budgétaires, elles sont réelles, elles ne vont pas... freiner toute politique d'attractivité ou de recrutement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une contrainte forte sur les créations de postes. On n'a plus les moyens, forcément, d'augmenter les effectifs de nos fonctions publiques respectives de manière significative. Pour autant, il y aura toujours du turnover, il y aura toujours un besoin de diversification des compétences, il y aura toujours des nouveautés aussi intégrées dans nos politiques publiques. Et donc, on aura toujours cet enjeu d'attirer des nouveaux profils, des nouveaux talents et d'enrichir aussi nos administrations avec... des profils un peu différents de ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc très clairement, le flux est contraint, mais pour autant, l'exigence et la qualité aussi de services qu'on escompte dans nos activités de recrutement est toujours la même.
Oui, et puis moi, je rajouterais qu'effectivement... on nous demande aussi de travailler différemment, c'est-à-dire de travailler en intelligence collective, de travailler en transversalité. Du coup, bah, y a de l'optimisation qui peut aussi se faire. Et donc là aussi, c'est comment on pense les choses différemment pour finalement proposer toujours un service de qualité, mais avec plus d'innovation et puis aussi avec plus de moyens. Tout à l'heure, vous parliez de comment on intégrait les évolutions et notamment les évolutions numériques. Et ben voilà, ne serait-ce que quand on parle du recrutement, on peut mettre en place des outils qui nous permettent finalement de passer moins de temps sur la gestion du recrutement, mais du coup plus de temps avec des candidats.
C'est tout le sujet de l'intelligence artificielle. C'est un vrai défi pour nos collectivités.
Entre autres, puisque ça concerne tout le monde.
Oui, c'est ça, de nos collectifs. Oui, ça concerne tout le monde, mais le secteur public aussi.
Oui, aussi.
Et donc, comment conjuguer l'exercice de nos compétences avec la restriction de moyens, alors souvent avec des décisions qui sont étatiques et qui incombent aux collectivités sans vraiment d'échappatoire. Hein. Donc, c'est cette conjonction, en fait, de... Là, on est vraiment à... Enfin, j'allais dire à l'aube d'une nouvelle ère, mais où on doit interroger nos pratiques. Et si on veut être positif, c'est en même temps une forte opportunité, justement, de pouvoir nous adapter, et parce que c'est le mouvement de la vie aussi, que d'évoluer.
Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent sur le 101.2 et qui sont arrivés en cours de route que nous sommes dans le cadre d'une journée spéciale. Aujourd'hui, demain, c'est le Forum des métiers Grenoble-Alpes-Métropole qui se déroule à l'Alpexpo. Et du coup, sur News FM, on vous propose une série de décrochages avec des tables rondes et des interviews. On parle de l'attractivité de l'emploi territorial. Pour terminer peut-être cette table ronde, parlons un peu plus concrètement de votre présence ici, au Forum, les uns les autres. Donc, on a la ville, on a le CCAS de Grenoble, on a la ville de Saint-Égrève, on a le département et la métro. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs qui viennent sur vos stands? Est-ce que d'abord, ils peuvent déposer des candidatures, des CV? Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir? Est-ce que vous avez des petites animations, justement, pour attirer sur votre stand?
Alors, concernant la métropole, je répondrai à double titre, parce que d'une part, la métropole organise ce forum des métiers au titre de sa compétence d'insertion qu'on exerce sur le territoire métropolitain. Et on intervient aussi en tant qu'employeur. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir... nous faire connaître, premièrement, repérer des nouveaux profils. Donc, il est tout à fait possible de déposer un CV, que ce soit pour un stage, pour un apprentissage, que ce soit pour un poste permanent, en donnant à voir nos métiers. Donc, on a des animations. On a notamment notre PC à feu qui fait des démonstrations. Donc, les feux tricolores que vous voyez sur les routes. On a des démonstrations de nos métiers de l'eau et de l'assainissement. On a tout un tas de métiers techniques qui sont aussi présents sur le forum pour parler très concrètement de leur quotidien et de ce qu'ils font pour que ces métiers-là aussi soient aussi accessibles pour l'ensemble des jeunes et des demandeurs d'emploi qui sont sur ce forum.
Pour continuer, effectivement, on a participé activement à cette préparation. On participe au niveau du CCAS d'une part à la marque blanche, où là, du coup, ce sont plutôt nos professionnels qui sont dans le faire-faire. Et donc, expliquer les métiers avec des outils, on a la malpédagogie, on va avoir nos professionnels de santé qui vont expliquer un petit peu leur métier, mais avec des outils, avec des objets. Et puis, de l'autre côté, vous avez le stand plutôt tenu par les RH et plutôt recrutement, où là, effectivement, vous parliez de transmettre des CV. Donc, évidemment, on transmet des CV, mais on a aussi des cartes métiers pour expliquer nos métiers. On a un jeu où, du coup, les gens vont pouvoir jouer et pouvoir découvrir la fonction publique, le CCAS, les métiers du social, de la santé, de la petite enfance. Et puis, on est à disposition pour échanger, pour présenter, pour expliquer.
En effet, sur notre stand, on est là pour expliquer et présenter la ville de Saint-Égrève. Souvent, les candidats ne se rendent pas compte qu'une ville comme Saint-Égrève, c'est plus de 500 agents. 500 agents dans différentes filières, différents métiers, hein, comme on a pu en parler tout à l'heure, avec des métiers où on recrute, je dirais, tout le temps. Par exemple, les adjoints d'animation, on en a besoin tout le temps. Dans la petite enfance aussi, où c'est très tendu, et on sait, avec le CCS, la ville de Saint-Égrève, les communes en général, y a des tensions là-dessus, et on recrute de façon, enfin, toute l'année, hein, sur ces postes-là. C'est l'occasion de présenter aussi à la fois nos compétences obligatoires et toutes les compétences facultatives. Il se trouve qu'à Saint-Égrève, il y a un niveau de service public qui est particulièrement élevé. Je veux dire, on a 5 équipements petite enfance, on a un cinéma, une salle de spectacle, on a un conservatoire de musique, bon, etc. Et tout le monde ne se rend pas compte que dans une commune, on peut avoir une salle de spectacle, par exemple, tout simplement. Donc on est là pour expliquer ça, pour échanger avec les candidats ou des personnes qui viennent juste de se renseigner comme ça. On récupère des CV, on leur transmet aussi une documentation pour qu'ils puissent en effet faire part de leur candidature s'ils n'ont pas leur CV sur eux ou pour accéder justement à toutes les offres d'emploi qui sont inscrites sur notre site internet.
Et pour le département ?
Voilà, alors de façon pas très originale, donc nous avons un stand aussi RH où nous présentons les 250 métiers du département avec des orientations de recrutement qui sont importantes pour nous, hein, l'insertion bien sûr des personnes éloignées de l'emploi, les reconversions professionnelles, mais aussi les travailleurs en situation de handicap. Hein, on a une politique très dynamique pour ces publics et donc effectivement l'attractivité c'est le recrutement de stages, de stagiaires, d'apprentis et bien sûr sur poste permanent. Et aussi un gros volume d'offres sur des offres de remplacement, voilà, avec des contrats à durée déterminée. Et nous avons un agent d'exploitation qui est venu justement expliquer ce que c'est que s'occuper des routes du département, une gestionnaire marché, une gestionnaire comptable pour l'aspect financier, et puis deux professionnels du secteur social et médico-social pour expliquer aussi les métiers. Donc on n'a pas prévu de spectacle. Mais par contre, on attend le public avec impatience pour pouvoir parler de notre collectivité.
Eh bien voilà, donc vous pouvez retrouver ces différents stands ici au Forum des métiers Grenoble-Alpes-Métropole à l'Alpexpo. Grenoble, si vous vous intéressez à la fonction publique, aux emplois territoriaux, ça fait partie des nombreuses filières qui sont représentées aujourd'hui. Le Forum des métiers, c'est jusqu'à 21h et demain de 9h à 17h. N'hésitez pas à venir, c'est sûr que vous trouverez au moins une info intéressante. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes sur l'antenne de News FM. Donc je rappelle que nous étions en compagnie de Nathalie Vacher pour le département de l'Isère, Marie-Jeanne Clément pour la ville de Saint-Égrève, Béatrice Alafédouin pour le CCAS de Grenoble et Sylvain Chanzy pour Grenoble-Alpes-Métropole. Merci encore, merci. Bon après-midi et bon forum à vous. Merci. Allez, on repart en musique pour une courte pause, à peu près 10-15 minutes, et puis on va enchaîner avec une nouvelle rencontre en direct, que je regarde mon programme. Normalement, on va parler des métiers genrés et des métiers d'avenir avec une collègue de Sylvain, puisque c'est même une élue, hein, c'est la vice-présidente. Non, pardon, c'est une conseillère métropolitaine, c'est pas la même chose. Ça sera Corinne Lemarié qui sera avec nous. Donc, restez calés, à tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Les 16 et 17 octobre 2024, c'est le Forum des métiers organisé par Grenoble Alpes Métropole à Alpexpo Grenoble.